Le prêtre a très vivement conscience d'être tiré du sein de la collectivité et placé seul en face de Dieu comme le médiateur de celle-ci dans la prière sacrificielle. Ce propos de Jungmann illustre fort bien le souci éprouvé par l'Église médiévale de réaliser pour l'orate fratres un statut particulièrement solennel. On a parfois quelque peine à s'en apercevoir aujourd'hui, car la liturgie actuelle ne fournit plus en réalité qu'un schéma institutionnel restreint. Celui d'une invitation à la prière que le célébrant tourné vers les fidèles adresse à ceux-ci. La pensée médiévale se voulait plus forte. Elle imposait à l'orate fratres une véritable place charnière entre les rites d'une offrande désormais achevée et une action sacrée imminente dont le premier moment serait devenu l'oratio super oblata, couramment dénommée secrète, pour des motifs qui seront à étudier. Il fallait donc ajouter à la formule exprimée par le célébrant une ritualité solennelle qui hausse l'institution au degré d'une véritable cérémonie liturgique. La ritualité en question ne fut pas facile à établir. Il est de règle en effet que le célébrant ne peut s'adresser aux fidèles sans avoir préalablement baisé la pierre sacrée de l'autel, figure du Christ. Parce que sous une terminologie ou une autre, il transmet la paix du Christ au peuple de Dieu. Telle est la raison d'être, sur le plan rituel, du Dominus Vobiscum. Or, dans la perspective où se place la religion médiévale pour l'orate fratres, imposer aux célébrants une conversio ad populum pour inviter les fidèles à prier pour lui relèverait d'une orate d'autant plus blâmable que le fondement du rite réside dans un motif personnel. Atteinte à la fécondité du mystère sacrificiel, le peuple de Dieu n'a pas reçu la paix du Christ. Voilà pourquoi, au cours des siècles médiévaux, parut avant l'orate fratres un Dominus Vobiscum préliminaire accompagné de son réponse habituelle. Et pour majorer la solennité du rite, il fut prescrit que la conversio ad populum du célébrant, à la différence du Dominus Vobiscum qui ne se matérialise que par un demi-tour, s'accomplirait cette fois par un tour complet du sacerdoce sur lui-même, de telle sorte que revenant vers l'autel, il se trouva face au livre pour la lecture de la secrète. Ce geste rituel s'est maintenu jusqu'à nos jours. Mais lorsque le canon 56 de l'Ordo Romanus XV prescrivait « et convertitis ad populum dicens orate », cela signifiait que le célébrant s'adressait aux fidèles à haute et intelligible voix. L'introduction d'un Dominus Vobiscum préalable à l'orate modifia cet usage. Durand demande, dans son rational au XIIIe siècle, écrit que le célébrant doit « sub silencio » dire « Dominus Vobiscum », ensuite « voce aliquantulum elevata », c'est-à-dire « quelque peu plus élevé, orate ». Et d'après Hugues de Saint-Cher, un auteur du XIIIe siècle, la fin de l'invitation sacerdotale se dit « secreto ». Ainsi disparut l'ajout du Dominus Vobiscum. La question est cependant posée, la définition du terme secret. L'oratio super oblata est appelée secrète, et elle fait l'objet d'une double conception. Pour Bossuet, les oblats ont été séparés du latin secernere, d'où secreta, de l'excédent offert pour être la matière du sacrifice. Le haut Moyen-Âge apporte sa propre signification. Secreta, ce sont toutes les prières qui se disent à voix basse. Afin, comme le précise l'Ordo Romanus XV, que nul, sauf Dieu et le célébrant, ne les entende. Autrement dit, les prières d'ordre ministériel. Sous ce sens, le pape Innocent III désignait les prières incluses dans le canon actionnis et l'oraison sur les oblats en faisait partie. Le célébrant la disait donc à voix basse. L'orate fratres est donc la porte ouverte à la prex eucharistica.